Dans cette série de trois prédications, nous ouvrons à la méditation sur l'incroyable beauté de la vie humaine. Je vous propose de découvrir que l'humain a ce talent d'être heureux, de connaître le bonheur sur Terre. Mais il est utile, je pense, de creuser la question, car les options au sujet du bonheur sont très différentes selon les sensibilités religieuses, philosophiques dans notre humanité. Et au final, cela a une très grande importance sur nous. Alors, dès les premières pages de la Bible, nous voyons que Dieu place l'humain dans les meilleures conditions qui soient pour le rendre heureux. Au chapitre 2 de la Genèse, « L'Éternel Dieu forma l'humain de la poussière du sol et il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'humain devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, le jardin des délices, du côté de l'Orient, et il y mit l'humain qu'il avait formé. » Ensuite, dans le livre des psaumes, les 150 psaumes, le psaume numéro 1 n'est pas simplement le numéro 1 au hasard, c'est l'ouverture de ce livre et le premier mot de ce premier psaume. Un programme pour tout le psautier, finalement, qui présente tant et tant de détresse, de révolte, de doute, d'espérance, de joie des humains, bien comme notre existence. Ce premier mot, c'est « heureux ». Heureux l'humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la murmure jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. » Et en fait, c'est si inspirant, ce premier mot du psautier, que Jésus reprend ce cri du psaume premier pour ouvrir tout son évangile, finalement. Le début de sa prédication, selon Matthieu, au chapitre 5. Avec ces paroles bien connues qu'on appelle les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de vie juste, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand faussement toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez transportés d'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie heureuse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors effectivement, il y a une diversité de conceptions sur le bonheur. Alors je vais vous en proposer quelques-unes qui sont alternatives à celles de l'Évangile. Alors c'est un peu rapide, donc forcément brutal et injuste, évidemment. Aristote, suivi par nombre de philosophes grecs, fait du bonheur le but de la vie humaine. Et afin que nous ne dépendions de rien ni de personne, car cela pourra nous donner du malheur. Cela fait du bonheur le critère d'une vie réussie. Alors ça peut être intéressant si ça nous donne à penser ce qui est le but effectivement d'Aristote. Mais avec ce problème gravissime, à mon avis, que ça nous accable encore plus quand nous souffrons, nous rendant coupables du malheur qui nous frappe et d'en souffrir. Alors je trouve que c'est rude quand même. Le bouddhisme zen, il a eu une influence inattendue dans notre culture depuis les années 1970, avec des injonctions au lâcher-prise, à se vider de soi-même, à se dissoudre dans le grand tout, à se détacher. Alors c'est presque diamétralement opposé à ce que vit Jésus-Christ, proposant au contraire de valoriser l'individu personnel et la vie présente, de privilégier son développement, sa particularité, sa créativité, et de l'inviter non pas au retrait du monde, mais à s'engager dans le monde avec des relations de qualité. Certains courants du christianisme, mais aussi de l'hindouisme, et puis aussi des idéologies comme le communisme, ont promis un bonheur pour plus tard, à condition que nous supportions bien sagement notre condition présente, notre souffrance, avec la promesse de lendemain qui chante, ou la promesse de la vie future où les justes seront récompensés par un bonheur éternel, ou bien le nirvana pour ceux qui se plient docilement au jugement impitoyable du karma. Freud n'a pas tort, à mon avis, de parler d'opium du peuple pour qualifier ce genre de propagande. Jésus, lui, reprenant les premiers mots du psaume premier, annonce un bonheur pour maintenant. Heureux les pauvres en esprit, heureux maintenant, car le royaume des cieux est à eux, au présent. C'est aussi ce que dit le psaume 23, le plus connu des psaumes en réalité. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, aujourd'hui et au quotidien, parce que là, c'est un inaccompli en hébreu. Ça commence donc maintenant et c'est vrai pour le futur. Alors, quand on parle d'un bonheur au présent, on ne peut pas nous raconter des blagues, car cela se remarquerait quand même. Alors que c'est facile d'annoncer des lendemains qui chantent. Demain, toujours demain, le bonheur arrivera. Et c'est facile d'annoncer un bonheur à arracher par notre propre sagesse, par nos actes, notre sagesse, nos pensées, notre méditation. Si ça ne marche pas, le coupable est tout trouvé. La théorie peut rester supposément valide. Alors il nous reste à identifier donc ce bonheur qui nous est donné dans le présent, selon la Bible et selon Jésus-Christ en particulier. Il y a deux mots pour dire le bonheur en hébreu. Le premier mot, c'est « tov ». C'est ce que l'on a dans le psaume 23. « Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie ». Ce mot hébreu « tov », ça veut dire aussi « bon », qui a été bien fait, comme dans le récit de création de la Genèse. Après chaque journée, après chaque étape de la création, il y a, Dieu vit que cela était bon. Parce que ça apporte, la création qui a été faite dans ce jour a apporté un véritable plus. C'est le bonheur de l'émerveillement devant ce qui a été créé et du fait que l'évolution ait pu avancer à ce point. Ce n'est donc pas un bonheur fantasmé. Réellement, dans ce monde et dans notre vie, tout n'est pas que chaos, division, souffrance. Nous constatons qu'il existe des choses qui sont bonnes, qui sont belles, qui sont joyeuses, qui sont fécondes, et nous voyons qu'il n'en a pas toujours été ainsi. L'humain, en particulier, est une merveille d'évolution. Et il y a peu de temps, nous n'y étions pas. Et le monde est plein de merveilles. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas en nous, en tout cas en moi, je ne parle pas pour vous, dans notre vie, et puis dans notre monde même, dans la nature. Dans... Mais David n'est pas naïf quand il dit « Le bonheur et la grâce m'accompagnent au quotidien de mes jours ». Quand il dit cela, c'est juste après avoir évoqué la vallée d'ombre et de mort, qui est aussi une part de notre être et une part de notre vie par certains côtés. Néanmoins, il peut faire cette confession de bonheur parce qu'il se sent accompagné par Dieu. Il l'a senti dans les bons jours exprimés au début du psaume, dans les jours terribles exposés au milieu. Il se sent accompagné par Dieu, par sa grâce, dans un bon cheminement. Et c'est pour ça qu'il appelle ça bonheur. Contrairement à Aristote, le bonheur n'est pas le but. Il est une réalité vivante, nous dit David, une réalité mobile qui nous accompagne sur notre évolution, sur notre chemin. C'est Dieu, l'Éternel, comme il dit, la source de l'être. Le bonheur de David est ainsi d'être accompagné, mais sans jugement, précisément chaque jour de sa vie, comme nous tous. Et donc ce bonheur-là, il se vit dans l'émerveillement et dans la prière. Il peut jaillir par surprise dans notre journée, ou bien dans les veilles de notre nuit, à l'occasion d'une rencontre. Ça vient ouvrir à ce moment-là, comme un éclair, la dure carapace de nos peurs, de nos souffrances, de nos inquiétudes, de notre culpabilité. Dans ces moments-là, personnellement, je ne sais pas pourquoi, montent à mes lèvres ces mots que Rilke met dans la bouche d'Orphée sortant de l'enfer. « Être ici est une splendeur. » C'est un sentiment de gratitude, de louange, qui nous fait un bien fou, qui nous construit comme encore plus capables d'être heureux. Alors le deuxième mot pour dire bonheur dans la Bible, c'est « Ashrei », comme dans le psaume premier, et donc dans les paroles de Jésus qui reprend cette parole du psaume premier dans son poème sur le bonheur de l'humain. Ce qui est traduit par « heureux », c'est le mot « Ashrei », donc qui est un pluriel. Ce n'est donc pas simplement le bonheur, c'est de multiples qualités d'être qui caractérisent la personne humaine que nous sommes. Ashrei, c'est donc le pluriel de Asher, qui n'a pas moins de 3 significations en hébreu. C'est la force de ce langage de se prêter à d'interminables et nombreux jeux de mots. Asher, ça signifie donc être heureux, effectivement. Mais Asher, c'est aussi le pas en avant, c'est-à-dire ce contact dynamique et souple avec notre monde, avec la poussière de notre sol, mais qui sait aussi s'en détacher un instant pour projeter notre pied en avant dans un sens que nous avons choisi. Alors il y a effectivement un réel bonheur à avancer en ce monde, ne serait-ce que d'un tout petit pas. Il y a un bonheur encore plus grand, je pense, à faire avancer d'une certaine façon le monde autour de nous. Asher, c'est enfin un des mots les plus courants de la Bible, effectivement utilisé pas moins de 4800 fois, c'est tout simplement le pronom relatif. Et donc notre bonheur, il s'inscrit donc au pluriel dans la multiplicité de bonnes relations avec les êtres, avec Dieu, avec le monde. Être heureux, être en marche, en évolution, être en relation, tout ça est lié. Or, c'est donné à l'humain, c'est dans notre nature profonde. L'humain est un animal social, en relation avec d'autres, ce qui est difficile par certains côtés, mais qui est extraordinaire bon, bien sûr, par d'autres côtés. L'humain est un animal spirituel, ce qui est immense comme source de bonheur dans le présent. L'humain évolue tout au long de sa vie, c'est dans sa nature. Et c'est un fait d'observation que nous évoluons au gré des rencontres, au gré de chaque journée, de ce que nous faisons, de nos choix tout au long de la journée, de nos attachements et de ce en quoi nous mettrons notre foi pour vivre, pour avancer. L'humain, il est aussi créateur, capable de faire bouger les choses, capable de faire marcher, de faire faire un pas au monde, d'une certaine façon. Alors c'est ce qu'on remarque dans notre vie, cette créativité humaine. Mais c'est ce que nous dit la Genèse en nous disant que nous sommes créés à l'image de Dieu, créateur, et que nous sommes faits, vous l'avez entendu, de poussière du sol, pétris du souffle créateur de Dieu. Alors c'est un mélange assez baroque, effectivement, qui fait tout le génie de l'humain, mais aussi cette tension interne entre notre qualité d'humain fait de l'humus du sol et ce souffle infini du divin, de la transcendance qui est aussi en nous. C'est ainsi que nous avons naturellement, si je puis dire, une capacité native à évoluer et à faire évoluer, à créer du bon et à être en relation. C'est une merveille fort heureuse. Nous avons en nous-mêmes ce moteur du bonheur. Ce n'est pas une proie à arracher, c'est en nous une qualité d'être, comme d'avoir notre personnalité ou comme de respirer. C'est fait pour que nous nous développions, comme le dit Jésus, nous montrant un enfant en exemple. L'enfant est tout naturellement en croissance. Et donc, la première béatitude qui est enseignée par Jésus et qui annonce, qui résume tout l'Évangile, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », met au cœur de cette première béatitude ce moteur du bonheur et de l'évolution qu'est l'esprit, mais aussi nous invite à cette croissance, croissance spirituelle, croissance dans l'esprit, comme enfant de Dieu. En effet, heureux les pauvres en esprit, je vois là un esprit avec majuscule, l'esprit de Dieu qui nous est donné constitutivement, eh bien, le pauvre, c'est celui qui n'est pas complètement démuni. Il a quand même un peu, mais il n'a pas tout à fait assez pour manger chaque jour à sa faim. Eh bien, c'est notre situation vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Nous avons déjà l'Esprit en nous, puisque nous sommes capables d'aimer, d'espérer, de créer un petit peu, autant que faire se peut. L'Esprit nous a donc déjà été donné par nature, et ça nous donne par définition le pouvoir de faire avancer les choses à notre façon autour de nous. C'est effectivement un bonheur à chaque fois que nous avons pu faire nous-mêmes un petit pas ou que nous avons pu faire un peu de bien, aussi peu que ce soit, ou entrer dans une relation vraie avec quelqu'un, avec le monde, avec Dieu. Alors c'est le sujet des béatitudes suivantes où Jésus nous voit comme un acteur. Alors ces béatitudes suivantes, elles pourraient sembler paradoxales avec un bonheur conçu comme Aristote le propose, comme les stoïciens, les épicuriens le pensent. Mais Jésus nous dit que le bonheur, c'est pas tant de ne pas subir de peine, ni de troubles, ni d'injustice. Ce n'est pas être dans une paix béate. Le bonheur, c'est d'évoluer et de faire évoluer, un tant soit peu, de sécher une larme, la nôtre ou celle de quelqu'un, avoir un geste de paix concret, consoler une personne, c'est-à-dire en hébreu, lui permettre d'évoluer dans son être, et que nous puissions être prophètes et prophétesses ayant un regard vrai sur le monde et ouvrant notre bouche pour le dire. Ce bonheur qui nous est ainsi proposé par ces béatitudes, c'est littéralement une extase, une sortie de nous-mêmes pour entrer en relation et pour créer, pour s'engager. C'est le contraire du lâcher-prise, du détachement, de se fondre dans le tout. C'est le contraire de l'autonomie, cher aux stoïciens. C'est se sentir au contraire vitalement concerné et avoir faim et soif de justice et de paix, au point de se donner parfois un mal de chien pour faire avancer un tant soit peu le bien dans ce monde, au moins peut-être pour une personne qui a attiré notre attention et attendri notre cœur. C'est dans notre nature, dans notre merveilleuse nature de bonheur. Dans cette première béatitude, Jésus nous invite à découvrir que nous sommes en réalité bien plus doués que nous ne le pensions pour être heureux, pour goûter le bonheur, pour commencer à le vivre et à faire vivre avec ce bonheur, et encore plus à espérer que cet Esprit Saint que nous avons, dont nous avons reçu seulement les arts à notre constitution, nous pouvons donc à ce moment-là chercher à avoir plus d'esprit, à le mendier plus d'esprit, comme le pauvre mendie du pain à la porte du riche. À qui irions-nous mendier l'Esprit Saint, si ce n'est à Dieu, directement? Et alors nous sommes déjà dans son royaume. C'est notre ardente prière pour nous, pour ceux que nous aimons et pour ce monde qui en a tant et tant besoin. Amen.